Vous écoutez
RMC.
RMC.
Muratian n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
On m'a dit fuck you des fois. Moi, j'ai jamais dit fuck you parce que je dis fuck you, je prends 19.
Hey, monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Oui, Daniel Riolo est là, Thibaut Leplat également. Il est 23h02, on est en direct jusqu'à minuit. Merci de nous suivre sur RMC, sur YouTube peut-être, le chat de l'after. Vous êtes nombreux ce soir, une fois de plus. Je le dis, mais c'est vrai. Alors quand je le dis pas, des fois vous êtes moins nombreux. À ce soir, vous êtes nombreux. Merci à vous d'être là en tout cas. À suivre dans cette deuxième heure, Franck Ribéry au programme. On en a parlé, d'ailleurs je vous redonnerai ces infos, parce qu'il a refusé d'être adjoint à la Salernitana. On l'a envoyé là-bas en début de semaine. Mais il y a un livre qui vient de sortir sur lui, un autoportrait imaginaire. Son auteur Gilles Juan sera en direct dans l'after. Mais d'abord, accueillons messieurs, dames, Christophe Boucher, ancien président de l'OM et auteur, et on l'avait reçu dans l'after, du livre Main basse sur l'argent du foot français. Bonsoir Christophe.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct. On va parler droit télé dans un instant, on va parler de CVC également, il y a beaucoup de choses à analyser. Mais d'abord, l'info du jour. Enfin, est-ce que c'est une info? On vous l'avait annoncé il y a un petit moment dans l'after.
Oui, ça fait quand même.
Mais c'est maintenant officiel. Semaines, hein. C'est officiel, comme dirait Jeannot. Ce sera la Ligue 1 McDonald's en remplacement d'Uber Eats à partir de la saison prochaine et pour 3 ans. McDo va donner 30 millions par an, presque 2 fois plus que Uber Eats actuellement.
C'est quasiment. C'est 2 fois plus parce que c'était, c'était 15-16, un truc comme ça. Ouais. Mmh. On est là, quoi. Bah, écoute, très bon deal pour le football français. Après. Probablement, puisque quand on en avait parlé déjà il y a 2 semaines, on avait fait l'annonce, certains s'étaient un peu posé la question éthique autour de McDo. On a eu la Ligue 2.
Et les clubs qui ont financé la F1, qui ont l'alcool qui a financé la Champions League.
Voilà.
On a eu la Ligue 2,
Domino's Pizza, voilà. Uber Eats, le premier client d'Uber Eats, c'est pas les salades, les carottes et les poireaux.
D'ailleurs, toutes les pubs, c'était des burgers.
C'est McDo.
En plus, c'était... Ah, vous commandez pas des salades, vous, sur...
Sur Uber Eats?
Ouais.
C'est rare, les salades, mais toi, j'imagine que toi, tu le fais.
Pas du tout.
Donc, bon deal. McDo, bon, il y a une petite histoire, c'est que, évidemment, Uber s'est fait mettre un peu sur le carreau dans cette histoire de business. Bon, l'Orléanais, avec ses méthodes habituelles, quand il s'agit de business, tout est, on coupe à la hache. Donc, Uber, avec qui il a dealé pendant 3 ans, bon, derrière, dans la foulée, limite, il leur répond même pas au téléphone. Il leur répond plus au téléphone. Et Uber a voulu avoir un dernier petit bout dans le foot. J'avais raconté la dernière fois, ils essayaient un peu de se placer au PSG, ils essayaient de se placer. Le problème, c'est que McDo, ils veulent pas en entendre parler. Ben donc, ils ont mis la pression. Parce qu'en fait, Uber s'était proposé d'être partenaire, donc de mettre des ronds dans le football, auprès de la Fédé. Et notamment dans le foot amateur. Chacun développe ses stratégies comme marketing et communication. Mais McDo a pété un câble, a dit c'est hors de question, on ne veut plus les voir.
C'est donc nous maintenant. C'est pas non seulement ils prennent le truc, ils prennent le truc et ils veulent vraiment dégager.
C'est vous dégager. Donc ils essayent de revenir dans le foot par un biais, d'être sur les manches, d'être à droite. Parce que comme je te le disais, Uber, leur premier client, c'est McDo.
Oui.
Mais il faut savoir qu'à chaque fois, il y a une petite ponction, forcément. Et ils prennent cher. Donc McDo, ils l'ont un peu mauvaise. Donc ils ont trouvé que c'était le moment un petit peu de remettre l'église au milieu du village. Ils ont dit maintenant le foot,
McDo,
nous, vous dégagez, on veut plus entendre parler.
Mal d'image locale. Ils ont besoin un peu de redorer un peu leur blason, même s'ils l'ont fait déjà beaucoup. Mais ils s'allient avec la marque Ligue 1. Bon, c'est...
Et donc la brune, tu penses bien, puisque quand il y a de l'oseille, ça rigole pas. Et il a dit à la Fédé, bon c'est bon là, vous oubliez votre business avec Uber, parce que sinon McDo, là, parce qu'à un moment ils ont même menacé de descendre à 25. Si Uber continuait à traîner dans les pattes du foot. Donc là, maintenant, Uber se retrouve complètement sur le carreau.
Et sur l'image de la Ligue 1, le fait que ce soit McDo?
Je t'ai dit, à partir du moment où tu as eu la Domino's Pizza, tu as eu Conforama, on disait les meubles en bois, là, ça va être la Ligue 1 en bois.
Là, on va dire quoi de
qu'est-ce qu'on a eu quoi? Bah, Uber, c'est de la bouffe aussi, pas de top qualité. Moi, McDo, moi, ça me choque pas. Écoute, ils ont filé 30 millions, ils ont eu le deal. C'est un bon deal. Mmh. Je pense que tout le monde est content quand l'argent rentre dans le foot français.
Bon, il faut pas sur les sponsors, il faut pas non plus faire trop les vierges
marochées
parce que c'est un peu le principe du sponsor, c'est qu'il est là pour redorer son blason. Donc forcément, c'est pas Biocop qui va venir, la Ligue 1 Biocop. Bon, c'est pas tout de suite.
Hein. Bon, ils vont gaver les franchisés parce que tu sais qu'il y a énormément de franchisés. Ce sont souvent des les franchisés McDo ont de la chance, c'est des gens.
Il va y avoir des places.
Bah oui, parce que les franchisés, quand ils ont su, parce qu'en fait, ils ont appris en écoutant l'after que McDo allait devenir, ils savaient pas.
Ouais.
Les franchisés. Sauf que les franchisés, ils ont une espèce de, pas de, de taxe, mais en fait de participation sur leur chiffre d'affaires qui est donné à McDo pour toutes les campagnes de pub, de marketing et tout.
La licence.
Donc là, ils se sont dit, oula, 30 millions, ça va nous coûter combien cette affaire-là? Donc il y a eu un petit peu, c'est un peu rué dans les brancards. Bon, finalement, tout est rentré dans l'ordre. On va les gaver en place, en loge, dans les stades près de où ils ont les franchises. Et puis roule ma poule, quoi.
Christophe Boucher, je sais pas si tu veux dire un mot de ce deal officialisé aujourd'hui. Sinon, on peut avancer direct sur les droits télé.
Alors, d'abord, dire que c'est un bon deal parce que ça fait longtemps que la Ligue 1 cherche des sponsors et qu'elle n'en trouve pas beaucoup. Ça s'est déclenché maintenant depuis 4-5 ans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, moi, je conseillerais Uber Eats, qui avait le maillot de l'OM, de reprendre le maillot de l'OM parce que ça porte aussi fort que le naming de la Ligue 1. Et aujourd'hui, à ce que j'en sais, le maillot de l'OM vaut pas 15 millions d'euros. Donc voilà une bonne, voilà une bonne idée pour eux.
Ils essayent les manches à Lyon, ils essayent les manches à Marseille.
Sur le short, pour l'instant, c'était sur l'arrière short de lance parce que c'est les mêmes couleurs que McDo, les anciennes couleurs de McDo. Mmh.
Mais les manches, c'est un peu dérisoire, mais bon.
C'est un peu cheap, les manches.
Le plein maillot, c'est quand même pas mal et je pense qu'ils peuvent se refaire là. Mmh. Et n'oublions pas, mais on va y venir, j'en suis sûr, que là-dessus, CVC va prendre 13%.
Ah, on va y venir dans un instant. Juste après, peut-être un mot. Comme t'es là, on en profite, Christophe, et tu suis tous ces dossiers. Droit télé, de ce que moi je sais, Bein va tout rafler. T'as les mêmes échos?
Bah moi j'ai fait un tweet il y a assez longtemps d'ailleurs que t'avais retweeté Daniel et ça fait un moment que c'est dans le tuyau que Bein va rafler beaucoup de choses. DAZN, le concurrent, la plateforme concurrente qui s'intitule elle-même le Netflix du sport, c'est un peu des renards, c'est un peu des chasseurs de
droits.
Et ils attendaient que le foot français soit très très bas pour éventuellement cueillir le fruit.
Des vautours alors. Bon,
il se trouve que là, Bein est prêt à mettre plus d'argent. Il faudra voir dans quelles conditions. Et
Christophe, s'il y a un deal Bein, est-ce qu'on n'entérine pas une gestion quasiment semi-publique de la Ligue 1? Parce que c'est...
Ah bah oui.
J'imagine, suite à l'intervention, peut-être le dîner, il y a eu un dîner il y a deux mois.
C'est un seul pantalon et deux poches.
C'est de l'argent public venu du Qatar, sous à la demande, sans doute, je n'en sais rien, c'est une opinion personnelle, une conjecture personnelle, aussi l'intervention de l'Élysée éventuellement.
Alors, ça, personne ne s'en cache à l'Élysée. On te dit même quand
on est dans une sorte de Ligue 1.
Personne ne s'en cache.
C'est le commissariat au plan, en fait.
On te dit clairement qu'on ne voit aucun mal le président intervient pour que les entreprises françaises marchent bien. Et moi-même, je ne vois aucun mal à ça. Là où il peut y avoir un problème,
c'est ta valorisation, elle vient juste du conseil politique et des enjeux politiques. Elle vient pas de ton championnat.
On va en parler parce que ça a des incidences.
Ton championnat perd de la valeur.
Mais en revanche, pour le seul pantalon avec les deux poches, je suis très impatient de voir comment, une fois que Bein va tout rafler avec ce fameux abonnement qu'ils vont proposer et tout, qui va être en plus
pour le on est vraiment proche de ça là.
Pour le consommateur, ça va être, je pense que ce sera une bonne chose.
On est vraiment proche de ça.
Oui. Bein. Mais là où ça va être intéressant à observer, c'est comment on va répartir, comme disait Christophe, parce que il y a, pour atteindre une somme importante, il y a Ligue 1 et les droits internationaux. Mmh. Honnêtement, bon, les droits internationaux aujourd'hui sont de 80, un peu moins de 80 000 balles.
Ça tend à 500 millions de droits internationaux.
Justement.
C'est encore Bein qui va les commercialiser.
C'est le même pantalon. Oui, donc, si tu as 600 millions pour la Ligue 1 de la part de Bein et Bein qui met 200 ou 250 pour les droits internationaux, là, ça va me faire rigoler parce que sur les droits internationaux, la répartition, c'est quasiment la poche arrière PSG. Tu vois? Donc, ça veut dire que c'est le PSG qui va encore plus croquer là-dessus. Donc, tu vois, évidemment, le pantalon du Qatar, il y a beaucoup de poches. Mais ça va souvent dans la même caisse, tu vois. Voilà. Donc ça, vais quand même observer ça.
Daniel, Christophe Boucher.
Il faut peut-être rappeler pour un minimum de clarté que la répartition des droits n'est pas du tout la même selon les droits internationaux et les droits domestiques.
Exactement.
C'est pour ça que tu dis ça. Bah,
oui.
Peut-être le rappeler parce que
tu fais bien de le rappeler. Oui, parce que les droits internationaux, c'est la répartition, c'est pas
donc
pareil.
C'est deux tiers pour Paris, Christophe. Je parle sous ton contrôle.
Alors les droits internationaux, c'est simple, c'est les clubs qui sont qualifiés en Coupe d'Europe et la répartition se fait en fonction du nombre de points qu'ils ont au classement UEFA.
Ok. Donc c'est tout dans la poche arrière du
championnat. On va pour Lens. Lens, ils vont avoir 20 balles.
Donc, à l'heure actuelle, le PSG détient à peu près 25% de ses points UEFA.
D'accord.
Donc, 25% de la somme qui sera qui sera donnée pour les droits internationaux ira directement au PSG.
Donc un quart et pas un tiers, deux tiers, je disais.
Un quart.
Un quart. Donc,
entre un quart et un tiers, ça va être...
Tu comprends pourquoi oui, je suis beaucoup. Très curieux de voir comment va se faire le deal et combien pour la Ligue 1, combien pour les droits internationaux. Je suis curieux de voir ça quand même.
Tiens, dans le chat YouTube, il y a un Kimpembe. Je pense pas que ce soit l'oreille qui nous dit c'est un pantalon de chantier, en fait. Effectivement. Oui. 23h12 l'after avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat, avec Christophe Boucher, auteur du livre Main basse sur l'argent du foot français. Ouvrons le dossier CBC. Donc,
c'est pas la première fois qu'on l'ouvre parce que Christophe était venu avec ouvert. Ce bouquin pour parler de ça, mais. En
ouvrons
gros,
le nouveau chapitre de
voilà, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, Christophe? Parce que nous, des gens ont travaillé dessus dans la rédaction. Nicolas Pelletier a écrit un article hier pour nous informer que le PNF se penchait sur le dossier. Et on a un autre journaliste dans la rédaction qui s'appelle Morgan Bessa qui a fait un gros travail, très bon travail, justement, en s'intéressant, et je crois que tu le sais, Christophe, à des aspects. On va poser des questions et je ne sais pas si tu auras des réponses pour savoir si on est parfois en zone grise pour ce qui concerne ce deal. Tu l'as beaucoup évoqué, mais qu'est-ce qu'il y a de neuf là-dessus? Pourquoi d'abord le parquet national financier s'intéresse au sujet?
Alors le parquet national financier s'intéresse au sujet parce qu'il y a une plainte de déposé par une association assez anticorps qui a relevé selon elle plusieurs anomalies et qui lui ont permis de déposer une plainte auprès du parquet national financier. Mmh. Maintenant, le parquet national financier va devoir dire si cette plainte elle est recevable et si elle va être instruite. Donc voilà, ça c'est les...
Et ça, on va savoir quand si la plainte est recevable, la semaine prochaine, non?
On va savoir dans les semaines qui viennent. Oui. Le parquet national financier n'est pas, j'imagine, n'est pas pressé de répondre et il va regarder... Vous savez, les juges, c'est comme nous tous, ils ont besoin de succès. Donc, quand ils ouvrent une enquête, il faut que cette enquête, elle aboutisse. Autrement, ils n'ont pas fait leur boulot.
Oui.
Donc, ils préfèrent ouvrir les enquêtes, notamment une enquête préliminaire, puis après, avoir, quand ils ont certaines chances de succès d'arriver au bout de leur enquête. Ils vont prendre le temps d'éplucher les choses pour d'abord dire si la plainte est recevable.
Et il y a également en parallèle deux sénateurs qui sont, on va dire ça comme ça, chauds sur le sujet. Donc Michel Savin, on le connaît parce que les affaires du sport et des finances dans le sport, on sait qu'il est beaucoup dedans. Et Laurent Lafon également. Et ces deux sénateurs, alors qu'est-ce qu'ils ont remarqué?
Il y a une mission sénatoriale, il faut rappeler qu'il y a une mission d'information menée par le Sénat, par ces sénateurs-là, en plus de l'enquête du parquet national.
Ça intéresse quand même beaucoup de gens, ce CNC, mine de rien.
Auditionner tous les présidents.
Alors les sénateurs, je vais essayer de résumer en étant un peu trivial, ils se sentent un peu cocus. Parce que lorsqu'il y a eu la loi qui a été votée pour permettre d'avoir une société commerciale et dans la société commerciale d'avoir un tiers, c'est-à-dire un fonds financier, ils avaient été les seuls, parce que l'Assemblée nationale avait été bien souple sur le sujet, ils avaient été les seuls à essayer de mettre des barrières pour éviter que le football... puisque c'est une sous-délégation de services publics, faut pas l'oublier. C'est pour ça que d'ailleurs que l'Élysée a tout intérêt à s'intéresser au sujet. Il faut le rappeler, hein, c'est une sous-délégation de services publics.
Christophe, il faut préciser juste qu'effectivement la Ligue commercialise des droits au nom de cette sous-délégation et elle le fait au nom des clubs. Le fait de créer une société commerciale, une société quasiment presque indépendante
privatise
les droits.
Toute la question va être de savoir si on a détourné un bien public.
C'est l'enquête, c'est l'objet de l'enquête aussi. C'est la plainte qui est déposée.
Est-ce qu'on a détourné un bien public?
Est-ce que c'est un détournement de fonds publics?
Cette loi sur le sport, Christophe, il faut quand même s'arrêter là-dessus. Elle est notée, elle est votée en 2022. Et dans cette loi sur le sport, il y a des choses mais qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. C'est très bizarre. Dans cette loi sur le sport, tu as aussi bien le voile, le hijab que les sportifs peuvent pas porter et qui avait fait beaucoup de bruit et peut-être qu'on avait tellement parlé de ça, qu'on n'avait pas vu ce qu'il y avait derrière. Mais dans cette loi sur le sport, d'un coup, il y a eu « vous avez le droit de faire une société commerciale ». Et c'est là que les sénateurs se sont dit, mais attendez, pourquoi vous êtes si pressés de voter cette loi? Ça veut dire quoi, cette société commerciale? Elle va servir à vendre quoi, au fond? Elle va servir à vendre ou à détourner s'approprier du bien public? C'est ça, Christophe, qu'il faut comprendre?
Alors, d'abord, deux choses. La première chose, c'est que la ministre des Sports de l'époque, Roxana Maracineanu, était contre ce dossier-là. D'ailleurs, c'est même pas elle qui a présenté la loi, puisque le jour de la présentation de la loi, elle avait le Covid. Bon, personne n'est allé vérifier si elle avait vraiment le Covid, mais en revanche, ce qui est une certitude, c'est qu'elle était contre. Et elle avait trouvé des alliés, qui étaient les sénateurs, qui avaient dit, bof, nous, cette loi nous gêne un petit peu. Et ils avaient réussi d'ailleurs à plafonner le pourcentage que pourrait avoir un fonds dans la société commerciale.
D'ailleurs, l'audition de Vincent Labrune à cette occasion avait été catastrophique. L'audition de Vincent Labrune avait fait très très mauvaise impression. Je l'avais vu.
Je me souviens, l'Orléanais devant la commission qui
les avait pris vraiment pris de haut et ce qui avait été très mal perçu par les sénateurs.
Avait parlé à l'époque. Oui, bien
très
sûr.
Très mal pris.
Christophe.
Très mal pris. Or, les sénateurs, ils avaient mis des barrières. Et là où je vous dis qu'ils se sentent un petit peu, permettez-moi l'expression, cocu, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas imaginé que la Ligue allait contourner l'obstacle, parce que la Ligue a contourné l'obstacle, en donnant les droits à vie à un fonds financier. C'est-à-dire que eux, ils s'étaient, et personne d'ailleurs n'avait, et moi le premier, hein, franchement, hein, personne n'avait vu la Ligue allait contourner l'obstacle ainsi. Les sénateurs avaient dit, vous ne pouvez pas avoir plus de 20%, ils avaient proposé 10 et puis on a fini à 20%. Vous ne pouvez pas avoir, vous, n'importe quel fonds financier, vous ne pouvez pas avoir plus de 20% de la société commerciale. Donc, et ils avaient estimé bon, que c'était pas mal. Sauf que la Ligue a contourné le problème en disant c'est moins de 20%, puisque c'est 13% en vérité, qui peut monter à 14%. Mais, et c'est là toute la subtilité et le déséquilibre incroyable de ce deal, c'est que c'est des droits qui sont à vie.
Avec, pour être tout à fait juste, l'idée que la Fédé et la Ligue peuvent racheter les parts de CVC.
Et on fera une pause juste après, Christophe.
Alors, ils peuvent racheter les droits de CVC, mais
il faudrait qu'ils trouvent 1,5 milliard
pour le faire.
S'il faut parler
ils ont créé une société ensemble, en fait.
Voilà. Bon,
on continue la discussion.
On continue.
Dans un instant,
on va arriver aux choses qui sont plus que zone grise.
Le 32-16, d'ailleurs, il y a Patrick.
Les commissions, les bonus.
Qui est bien au fait de ces sujets. Patrick est là au 32-16. 23h19, c'est l'after avec Daniel Riolo, avec Thibault Leplat et Christophe Boucher. On arrive dans un instant.